Le grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui la sœur Marguerite Desclercq, très connue sous le nom de Docteur Desclercq. Docteur Desclercq, vous avez avec quelques médecins congolais mis sous pied un programme pour lutter contre le diabète.
C'est exact.
Et cela depuis 1974.
Exactement. Donc, voilà. Il va y avoir 40 ans que nous avons commencé un programme pour le diabète à l'hôpital Mamayemo de l'époque, que maintenant nous appelons hôpital général de Kinshasa. Et c'est toute une vie que nous avons passé, moi-même, les infirmiers et tout un groupe de médecins, à nous intéresser au diabète et à ceux qui en souffrent.
On va en parler dans cet entretien avec vous, docteur Desclercq. On va faire un grand pas en arrière pour nous dire comment cette idée est venue, qu'est-ce qui avait motivé ce groupe de médecins à pouvoir mettre en place ce programme. Quand est-ce que vous êtes arrivé en RDC? Bref, on va parler de votre passé. Vous m'aviez dit que vous êtes arrivé en RDC en 1955.
C'est exact.
Pour quelle raison, docteur Desclercq?
Eh bien, voilà. Vous savez que je suis religieuse et bon, comme religieuse, j'avais envie de partager ce que j'avais. J'étais infirmière, j'étais accoucheuse et ma foi, soigner les petits bébés en Belgique il y a assez de monde. J'avais demandé à mes supérieurs de l'époque, donc, de pouvoir venir dans un pays qui n'était pas la Belgique. Et à cette époque-là, c'était en fait le Congo. Et voilà.
Vous n'avez pas choisi le Congo, vous avez demandé à aller en Afrique.
Exactement, mais tout naturellement, à l'époque, le Congo était évidemment encore une colonie de la Belgique, et on allait tout naturellement au Congo, un très grand pays où il y avait d'énormes possibilités et d'énormes besoins. Et on m'a envoyé au Congo, j'en ai été très heureuse, et j'ai débarqué exactement en 55, encore au vieil aéroport de Ndolo, toute jeune et toute nouvelle.
Ne connaissant pas le pays?
Absolument pas. Je ne savais pas un mot de Lingala, pas un mot de Kikongo. Je l'ai appris depuis. On nous a envoyé, le premier endroit où j'ai vécu, c'est Kisantu.
Dans la province du Bas-Congo.
Exactement. Puis Lemfu, dans la même province. Et puis...
Vous avez passé combien de temps dans cette province?
Pas longtemps, un peu plus d'un an.
Pour être déployé ailleurs?
Et alors, on avait de nouvelles formations, de nouvelles missions, de nouveaux hôpitaux dans la région que nous appelions à l'époque le Kwango, qui est au fond la province de Bandundu, quelque part au fin fond de la province, tout près de l'Angola, un pays perdu, où il y avait un hôpital. Et là, j'y suis restée 12 ans. Et vous savez que là-bas, à l'époque, il n'y avait pas de médecin. L'infirmière, l'accoucheuse, elle faisait un peu de tout.
Mmh.
Elle devait s'occuper des enfants, des adultes, des accidents, des morsures de serpents, des disputes. Enfin, on avait vraiment une variété d'occupations. On ne pouvait jamais s'ennuyer.
Et vous avez appris les coutumes de Bandundu?
Absolument. Donc on essayait d'abord d'apprendre la langue, c'était la première chose. Et là, comment...
Vous avez appris le Kikongo?
Oui, bien sûr.
Vous parlez un peu le Kikongo?
Non, je le comprends bien, mais j'ai perdu l'habitude. Le Lingala a un petit peu effacé cela.
Mm-hmm. Hein?
Donc le Kikongo, je l'ai bien connu, je le comprends bien, mais je le parle difficilement. Je peux le lire, certainement.
Mais le Lingala, vous parlez bien, sans problème?
Bien, c'est beaucoup dire, mais je me débrouille.
Vous vous débrouillez en Lingala?
Voilà, je peux parler avec les patients, je comprends ce qu'ils me racontent, ça va bien.
Alors, 12 ans, vous avez passé à Kwango, comme vous
exactement,
dites.
Exactement, oui.
À soigner les malades. Donc, vous étiez au
exactement
départ infirmière accoucheuse.
Exactement.
Mais vous étiez obligée de vous occuper de tout ce qui venait à l'hôpital.
De tout, y compris, j'ai encore même soigné des moutons et des histoires comme ça. On faisait de tout.
Vous êtes transformé aussi en médecin vétérinaire?
Mais ma foi, je vous dis, la sœur, dans une mission éloignée, c'était un peu le recours perpétuel pour tout le monde. En plus de ça, on allait en véhicule visiter les villages, ce qui fait que je connaissais assez bien la région à l'époque.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette région, ma sœur?
L'extrême pauvreté, bien sûr. L'éloignement, la situation de la population n'était certainement pas facile. Et alors, ce qui est plus triste, c'est que ça n'a pas beaucoup amélioré. C'est encore un peu la même chose.
Là, c'était vers quelle année
Eh bien, c'était donc entre 55 et fin 66, enfin, que j'ai été là-bas.
Mais après, vous êtes venu à Kinshasa.
C'est-à-dire entre 55 et 66, si vous voulez bien compter, il y a eu l'indépendance entre les deux.
Oui, il y a eu l'indépendance. Vous avez vécu l'indépendance. Vous avez vu l'indépendance arriver.
J'ai vécu l'indépendance et là-bas, dans cette région, je dois reconnaître que l'indépendance s'est passée dans le calme. Les gens espéraient évidemment...
Il n'y avait pas de chasse aux expatriés.
Non, d'abord il n'y en avait pas, c'était bien simple. Nous étions, à part les missionnaires, il n'y avait personne. Alors on parlait de dépendants. Ils espéraient évidemment qu'il y allait un miracle qui allait se passer. Le miracle ne s'est pas passé, mais je dois dire que ça s'est passé dans le calme et nous n'avons jamais senti que nous étions ni menacés, ni même... On ne nous a même rien dit, c'était même très calme. Bien sûr, il n'y avait pas beaucoup d'Européens à l'époque. Il y avait les missionnaires, comme je dis. Il y avait bien sûr un agent de l'État. Ceux-là sont partis.
Mais vous-même, particulièrement, docteur Desclercq, vous n'aviez pas un peu peur
Non, pas à cette époque-là. Plus tard, en 64, nous avons eu des difficultés au moment de la révolte de Mulele.
Oui.
Là, ça a été pire, parce que là, il y a eu des menaces, même contre les missionnaires, et il y a eu, dans la région de Kwilu, des missionnaires qui ont été brutalisés et assassinés. Mais chez nous, ça s'est passé, on ne peut pas trop se plaindre.
Et tous ces événements-là ne vous ont pas poussé à vous dire « je vais rentrer chez moi en Belgique ».
Écoutez, dans tout métier, dans toute vocation, il y a des difficultés. On ne peut quand même pas abandonné à la moindre petite difficulté. Je dois dire qu'au total, j'ai eu de la chance. Et les gens nous respectaient et nous acceptaient. Ils étaient heureux de nous voir. Donc, j'ai plutôt joui de préjugés favorables de la part de la population. Bien sûr, nous leur apportions des soins que j'aurais eu beaucoup de mal à obtenir par d'autres parce que c'était des régions très abandonnées.
Et après la rébellion mouléliste, vous êtes resté dans le Kwilu, dans la province de Bandundu?
Non, je suis partie. Alors, en fait, c'était en partie pour raison de santé. J'ai dû rentrer en Belgique et en 66, on a décidé que je faisais la médecine. J'ai fait mes études de médecine en Belgique et je suis revenue d'abord en stage en 72-73. Puis comme médecin, et alors cette fois-là, on m'a demandé d'être médecin au département de médecine interne à l'hôpital Mamayemo.
À Kinshasa.
Exactement. Et ça, c'est ma deuxième vocation, si vous voulez.
Quand vous êtes revenu avec votre diplôme de médecine, vous vouliez rentrer dans le Bandundu ou ça vous a plu aussi de rester travailler dans la capitale hein?
Là aussi, je n'ai pas choisi. Je voulais rentrer dans le Bandundu, mais ça ne s'est pas arrangé. En fait, d'autres médecins étaient arrivés entre-temps et on m'a demandé, comme j'étais en stage à l'hôpital général, le staff de médecine m'a demandé de rester à l'hôpital. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de médecins congolais, n'est-ce pas?
Les médecins qui étaient là, c'était des étrangers.
C'était pratiquement en presque totalité des médecins envoyés par l'ONU. Il y avait eu une première mission de l'ONU, l'époque de Dag Hammarskjöld,
oui,
etc. Ouais. On avait envoyé des agents de l'ONU, notamment des médecins pour aider le Congo à sortir des difficultés après les rébellions de l'indépendance. Et plusieurs médecins avaient été affectés à l'hôpital général. Cet hôpital marchait très bien. Il était bien géré.
C'était très bien équipé.
Oui, c'était un bon hôpital et on faisait une excellente médecine. Pour l'époque, il faut bien se dire qu'il y a 40 ans, ce n'était pas la même médecine que maintenant. Mais pour l'époque, c'était un bon hôpital.
Tout le monde venait se faire soigner là-bas.
Absolument. La ville était beaucoup plus petite. Il y avait l'hôpital, il y avait l'université, il y avait une Galiema, et puis c'était à peu près tout. Il n'y avait pas grand-chose d'autre.
Et on apprend même que les soins étaient presque gratuits.
Ah oui, ça, c'est la grande différence avec l'époque d'alors et maintenant. Cet hôpital était géré donc par le gouvernement congolais qui a affecté des budgets importants pour que ça marche. Les médicaments, il y en avait en suffisance. À l'époque, j'ai même été président du comité de pharmacie, donc je m'en rappelle. On pouvait acheter ce dont on avait besoin. On recevait les médicaments nécessaires. Les malades payaient mais de très petites sommes. Ce n'était vraiment
c'était
pas
assez. C'était insignifiant.
C'était très modeste comme prix. Donc tout le monde pouvait
c'était
se faire...
C'était accessible à tout le monde.
Absolument. Et surtout, c'était de la qualité. Et on trouvait tous les médicaments. Il n'était pas question de faire une ordonnance pour acheter en pharmacie. Évidemment, à cette époque-là, une grande partie du budget était consacrée aux hôpitaux. Actuellement, ce n'est plus le cas. Et puis aussi, la population actuellement a énormément augmenté. Le nombre d'hôpitaux a énormément augmenté. Le problème est devenu immense.
Docteur Marguerite Desclercq, les gens sont habitués à vous appeler docteur Desclercq, on oublie souvent votre prénom.
Mais non, c'est très amusant parce que quand j'écris des livres, je signe M. Desclercq. Et la plupart des gens à l'intérieur du pays croient que je suis un homme. Alors quand ils me rencontrent, ils disent « Ah, c'est ça le docteur Desclercq ». C'est parfois amusant parce qu'ils ne m'ont pas vu. J'ai écrit beaucoup de livres sur l'éducation et ces livres ont fait connaître mon nom. Donc on croit que je suis un homme, mais ça, bon, patience, quand ils me voient, ils réalisent que je suis...
Vous êtes une femme, hein?
Une femme, non, une femme de plus en plus âgée, bien sûr.
87 ans aujourd'hui.
Oui. Donc, c'est respectable.
Vous vous appelez docteur Marguerite Desclercq, mais depuis la zaïrianisation, vous avez décidé qu'on vous appelle juste docteur Desclercq et vous avez supprimé votre prénom. Racontez-nous un peu la petite histoire. Pourquoi vous avez décidé que votre prénom soit supprimé?
Donc, nous avons eu d'abord la zaïrianisation et puis c'était la radicalisation. Je ne me rappelle plus du mot exact qu'on a employé, mais il y a eu deux pas importants. Donc la zaïrisation, la première, qui était surtout, qui s'attaquait surtout aux problèmes financiers et commerciaux. Et puis la radicalisation. Et là, c'était vraiment tout ce qui était, toute idéologie hors celle du parti et hors celle du président devait être effacée, y compris tout ce qui avait trait à la religion chrétienne. Donc les noms chrétiens devaient être effacés au nom de l'authenticité. On devait s'appeler par son nom authentique. On devait fêter donc des fêtes authentiques, donc le 24 novembre et tout ce que vous pouvez rêver. Noël était un jour où on travaillait. Et le jour, c'était la naissance, l'anniversaire de Mobutu qui remplaçait Noël, je me rappelle de ça. Et c'est pour ça qu'on m'appelle toujours par mon nom de famille, parce que tous les médecins que j'ai connus à l'époque étaient obligés d'employer leur nom de famille. Et moi aussi, bien sûr.
Ça ne concernait que les Congolais, disons les Aïrois à l'époque.
Oui, mais nous avons pris tous l'habitude de nous appeler par notre nom de famille. Tous les médecins belges et de l'ONU s'appelaient alors par le nom de famille, comme les Congolais, comme les Aïrois, parce qu'ils étaient des Aïrois. Donc.
Par solidarité.
Non, c'est devenu l'habitude.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui docteur Marguerite Desclercq, religieuse, avec quelques médecins congolais. Elle a mis sur pied le programme de lutte contre le diabète. Et c'est de ce programme qu'est né le programme national de lutte contre le diabète en RDC. Alors docteur, on va parler du début du programme hein, de lutte contre le diabète. Ça a commencé en 1974 à l'hôpital Mama Emo.
Et j'ai encore la lettre d'affectation qui date du 1er avril. Cette lettre existe encore. On a mis en place une clinique pour le diabète au pavillon des ambulatoires. C'est le pavillon 22 pour ceux qui connaissent l'hôpital. On avait le problème suivant, c'est que régulièrement venaient à l'hôpital, en médecine interne, des malades, on diagnostiquait un diabète. On les soignait, on leur donnait des médicaments et ils rentraient à la maison. Et ils revenaient 8-15 jours après ou 3 mois après, avec les mêmes plaintes et les mêmes symptômes, et ils ne s'étaient pas soignés entre-temps. Et ça ennuyait tout le monde, bien sûr. Et on cherchait une personne qui veuille bien s'occuper de leur apprendre comment se soigner, comment s'injecter, quoi manger, comment soigner les petites plaies aux pieds. Vous savez que le diabète atteint les pieds de façon prépondérante. L'enthousiasme n'était pas énorme, parce qu'évidemment, c'était tous des médecins expatriés, il y avait des Coréens, il y avait des Jamaïcains, il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, il y avait des Américains. Donc, ils n'étaient pas très équipés, ne parlant pas la langue, n'ayant aucune idée de ce que les Congolais mangeaient, non, pardon, les Aïrois mangeaient. On m'a demandé de le faire. Je n'avais pas choisi, mais bon, puisqu'on me l'avait demandé, je l'ai fait de tout mon cœur.
Alors, il y avait beaucoup de médecins quand même étrangers là-bas. Pourquoi c'est à vous qu'on a demandé de mettre en place ce programme?
Mais la petite phrase qui est ma vocation, c'est très simple, ça c'est du travail pour la sœur. Mm-hmm. Et la sœur, c'était moi. Et je l'ai fait et j'ai commencé avec deux infirmiers que je vais nommer ici parce que ces deux infirmiers méritent vraiment une très grande louange pour leur courage. C'est Jean Fumazou et Jean Genda. Et je dois dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont consacré toute leur vie au diabète et ils savent comment encourager et entourer un malade qui a le diabète. Ce sont des personnes grâce à quoi un programme est possible. Et ça, c'est l'illustration comme quoi un programme peut être initié par un étranger ou une étrangère, mais ne peut s'implanter, s'enraciner dans le pays que si nous avons des personnes locales, motivées, courageuses, qui veulent bien reprendre le flambeau. Bon, je cite ces deux-là, mais je pourrais citer 10 à 15 médecins, une centaine d'infirmiers, des gens qui ont un courage extraordinaire.
Que vous avez formés?
Je les ai tous formés, pratiquement, n'est-ce pas? Et ça, c'est ma fierté.
Tous les médecins congolais qui s'occupent du diabète aujourd'hui sont passés
presque tous. Il y en a qui ont trouvé que j'étais une personne dure, elles allaient me casser, elles allaient docteur, elles allaient compliquer, tout ce que vous voulez, ce qui est vrai.
Vous êtes une personne compliquée?
Non, je suis une personne exigeante. Mais en Kikongo, à Lingala, on dit elles allaient compliquer. Mais c'est ceci. Le diabète est une maladie qui fait beaucoup de mal, qui est beaucoup plus méchante. Alors, moi, je veux mettre les personnes atteintes à l'abri de cette maladie, et à l'abri des complications, et à l'abri que le mal que cette maladie peut leur faire. Et pour faire cela, il est évident que ce n'est pas facile. On doit exiger du patient qu'il fasse attention à ce qu'il mange, il doit faire attention à l'hygiène du corps et des pieds. On doit lui demander de faire de l'exercice physique. On doit lui demander de manger à des heures relativement régulières. On doit l'obliger à prendre des médicaments. Et par exemple, à l'époque, maintenant ce n'est plus vrai, mais à l'époque, toutes les prises de sang se faisaient avec une grosse aiguille, ça faisait mal. Maintenant, nous avons un matériel extrêmement perfectionné qui ne fait plus mal. Mais à l'époque, une injection d'insuline, ça faisait mal.
Mais docteur Desclercq, lorsqu'on vous a demandé de mettre sur pied ce programme sur le diabète, c'était parce qu'on avait constaté qu'il y avait de plus en plus de malades qui venaient à l'hôpital et présentaient des signes des gens qui souffrent du diabète.
Oui. Le diabète, pendant très longtemps, a été une maladie méconnue. On ne s'en occupait pas, on s'occupait de la maladie du sommeil, de la tuberculose, de SS. Vous pouvez nommer plusieurs maladies, et on considérait que le diabète était une maladie de riches. C'est faux. Ça n'a jamais été une maladie de riches. C'est plutôt, disons, une maladie de personnes qui vivent dans les villes, parce qu'il y a moins d'exercice physique. Donc, l'exercice physique intensif diminue le risque de devenir diabétique. Mais le diabète est de plus en plus une maladie qui est fréquente dans le monde entier. On considère actuellement, je ne suis pas sûre du dernier chiffre de la Fédération mondiale du diabète, mais c'est loin, au-delà de 360 millions de personnes qui souffrent du diabète dans le monde. Pour situer ce chiffre, dites-vous bien que c'est 10 fois plus que le nombre de personnes atteintes de sida. Or, on s'occupe beaucoup du sida, heureusement, mais 10 fois plus de personnes qui souffrent du diabète, on devrait s'en occuper 10 fois plus. Et ce n'est pas le cas, malheureusement.
Mais aujourd'hui, on a quand même un programme national.
Nous avons un programme, mais nous avons...
contre le diabète.
Mais qui n'est pas suffisamment financé. Parce que le Fonds mondial finance de façon très importante la tuberculose, ce qui est très bien, la malaria, ce qui est très bien, et le sida. Mais les financements importants ne vont pas à des maladies non transmissibles comme le diabète. Donc nous avons un programme national, heureusement. Donc ici, dans notre pays, on prend conscience que le diabète existe, mais ce n'est pas financé. Et en fait, une grande partie du financement, c'est le malade lui-même qui paie pour une grande partie de ses soins.
Alors que lorsque vous avez mis en place ce programme, c'était l'hôpital qui donnait les médicaments aux malades.
Oui, mais là, ça a duré, disons, jusque vers 1990. À ce moment-là, toutes les aides structurelles ont cessé. Et à partir de 1990, de plus en plus, nous avons essayé de faire un programme accessible à des prix raisonnables, mais nous ne sommes pas arrivés à ce que ce soit gratuit. Donc le malade doit payer une petite somme pour la consultation, c'est très peu de choses. Dans notre programme, il paye en moyenne 2 dollars par mois, mais il doit acheter ses médicaments lui-même, en tout ou en partie.
Mais pourquoi on avait interrompu les aides, docteur de Clercq?
Ah, c'est Mobutu qui l'a interrompu, ça c'est comme ça. Hein? Donc brusquement, on a estimé que la coopération belge devait être interrompue. Ça a été des moments assez difficiles. Je me rappelle que j'ai dû partir.
En Belgique, vous êtes rentré
oui,
en Belgique.
J'étais obligée de repartir. Je suis revenue, donc, dans un contexte qui n'était plus de coopération. Disons que, pour dire d'une façon un peu amusante, c'est le bon Dieu qui me payait. Mais évidemment, vous savez que les tarifs du bon Dieu, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça veut dire que nous avons dû mettre en place un programme qui fonctionne bien. Un programme où c'est le malade qui paye une grande partie de ses frais. Mais nous faisons un effort énorme pour que les consultations soient bien structurées, n'utilisent que des médicaments simples et pas trop chers, et nos médecins et nos infirmiers travaillent soit pour s'en gagner beaucoup d'argent et parfois bénévolement. Et je voudrais ici souligner le grand courage de nos médecins et de nos infirmiers dans les grands programmes ici en ville. Donc je vais peut-être vous donner des jalons. Le premier jalon, ça a été mise en place d'un programme à l'hôpital jusque vers les années, disons pendant un peu moins de 10 ans. Puis ça a été la mise en place des soins de santé primaires dans les centres de santé de la ville. Ça s'est fait progressivement. De la première année, il y avait 2 centres, et puis etc. Maintenant, il y en a plus que 80. Et maintenant, nous sommes dans la troisième étape. Nous essayons d'obtenir que des programmes soient mis en place à l'intérieur du pays. Mais on n'est pas financé. Le gouvernement ne finance pratiquement pas. Et de l'extérieur, nous ne trouvons pas de financement suffisant. Quand certains de mes infirmiers se promènent en ville et qu'on dit « Ah bonjour, comment ça va? Tu as soigné ma maman, tu as soigné ma tante. » Ils se sentent valorisés avec raison. Ils le méritent.
Docteur de Clercq, on va revenir sur le programme national qui a été mis en place en 1996.
Je pense que je devrais chercher la date exacte. Le docteur Mpoy a été nommé, j'étais très étonnée parce que je connais...
Vous n'avez pas été impliqué dans la mise en place du programme national alors
absolument
que c'est parti de ce programme que vous avez commencé à Mama Emo.
Mais disons que le programme national était un programme en papier. Mais alors, nous nous sommes rencontrés et comme par chance nous nous connaissons, on a travaillé la main dans la main et maintenant nous considérons que le programme national, c'est ce que font les médecins de la quatrième direction, ce que fait le président du programme national, ce que font les médecins qui travaillent avec nous, et il y en a bien d'autres. Voyez-vous, toute personne qui agit en faveur de la prise en charge du diabète fait partie, en définition, du programme national. C'est une évolution qui s'est faite d'elle-même, parce que les personnes qui ont partagé leurs activités et leurs expériences grâce au fait que nous nous connaissions. Mais j'ai été très contente
Oui, très contente, mais un peu, vous avez eu quand même un petit pincement au cœur parce que vous n'avez pas été associée.
Non, ça n'a pas d'importance.
Pas du tout?
Non, absolument pas.
Alors, vous avez travaillé à l'hôpital général, donc à Aix-Mamaïmo pendant 30 ans.
Oui, à peu près 30 ans.
À peu près 30 ans.
Alors maintenant, je me consacre essentiellement aux activités d'enseignement. Je forme des médecins, des infirmiers, je prépare des programmes, j'ai écrit pas mal de petits livres qui sont disponibles pour tous ceux que ça intéresse.
Des petits livres sur la maladie, sur le diabète?
Oui, il y en a pour les médecins, il y en a pour les infirmiers, il y en a pour les patients, il y a un peu de tout, pour les éducateurs. Et c'est un peu le relais, donc ce que je voudrais transmettre aux Congolais, aux Aïrois. Oui, c'était les Aïrois autrefois, ce sont les Congolais maintenant, je me brouille un peu. Et ce que je voudrais transmettre, c'est ce que je voudrais laisser plus tard.
Quand est-ce qu'une personne peut avoir des soupçons qu'elle est atteinte du diabète ou qu'elle souffre du diabète?
Nous allons parler du diabète de l'adulte, qui est de loin le plus fréquent. Alors, les symptômes classiques, donc très souvent, c'est j'ai très soif, j'ai la bouche sèche, je dois aller uriner plusieurs fois, je maigris, sans raison particulière. Et là, tout cela, les personnes se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils essaient de faire quelques examens, bon, on pense à la tuberculose, quand on maigrit, on pense au sida, et puis on constate tout à coup, non, ce n'est pas ça. Et alors, grâce à Dieu, et grâce aux appareils que nous avons maintenant, on peut faire des glycémies au bout du doigt et il est facile de constater que le niveau de glucose dans le sang, que nous appelons la glycémie, est trop élevé. Et là, c'est évidemment un diabète.
Alors, docteur Marguerite Desclercq, on va souffler un peu et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Okapi.
Docteur Marguerite Leclerc, qui est celle que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Elle est religieuse. Elle a, avec quelques médecins congolais, mis sous pied le programme des luttes contre le diabète. Et c'est à partir de ce programme qu'est né le programme national des luttes contre le diabète en RDC. Depuis 1964, vous êtes dans la lutte et la prise en charge des personnes qui souffrent du diabète. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant tout ce moment où vous vous occupiez, où vous étiez encore très active dans le programme de lutte contre le diabète?
Mais ce qui me marque surtout dans ce pays, c'est le courage de certaines personnes, le courage de nos malades. Et je vais dire, je suis femme et je suis fière de pouvoir dire que le courage des mamans congolaises est quelque chose d'extraordinaire. Et si le Congo tient debout, c'est en grande partie grâce au courage des mamans congolaises. Ça, c'est quelque chose qui me frappe tous les jours.
Par rapport au programme, c'est le courage des mamans congolaises?
Le programme, non. Ça, c'est plutôt plus général.
Oui, mais je parle du moment où vous étiez très active dans le programme des luttes ou des prises en charge des personnes qui souffrent du diabète.
Le courage des malades, parce qu'ils vivent quand même dans des conditions difficiles et ils font face à leur maladie avec beaucoup de courage. Aussi, pour beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmiers, un réel dévouement et un réel intérêt pour leur travail.
Alors, docteur Leclerc, depuis 1955 que vous êtes en RDC, on peut vous considérer comme une Mwanamboka.
Exactement, exactement. On m'a appelé Mwanamboka, ça m'a fait plaisir. Et je pense que ça définit bien ce que je suis. Bon, bien sûr, il ne faut pas regarder longtemps, on voit bien que je ne suis pas née au Congo, que je ne suis pas congolaise, mais j'appartiens au Congo et j'appartiens à la population congolaise. Je fais partie de la population congolaise avec qui je partage beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes.
Docteur Leclerc, vous parlez lingala, vous m'avez dit. Mais vous comprenez bien le lingala.
Nayo kamalamu.
Et vous mangez congolais?
Non, pas tellement.
Pas tellement.
Je le supporte.
Mais vous avez quand même goûté un peu
oui,
la cuisine congolaise.
J'ai goûté les chenilles, j'ai goûté toutes sortes de choses. Mais j'avoue que je ne supporte pas tellement bien la cuisine congolaise, qui est un peu trop grasse pour moi.
Même lorsque vous étiez jeune, en fait, jeune.
Étant jeune, bien sûr, dans les villages, j'ai mangé comme tout le monde. Alors, ils savaient ce que j'aimais, bien sûr. Ils savaient que j'aimais beaucoup les bananes, les makemba, etc. Et gentiment, ils préparaient ce que j'aimais. Mais ce n'est pas, disons que la cuisine congolaise, c'est pas tellement ce que j'appréciais. Mais je me suis fortement habituée aux habitudes congolaises, aux façons de parler, aux façons de se comporter, etc. Ça, oui.
Comment vous trouvez les Congolais en général?
Ah, ça c'est évidemment, il ne faut jamais, jamais faire des jugements globaux, parce que ça, c'est toujours l'origine de beaucoup de malentendus. Les Congolais sont comme ça, les Flamands sont comme ça, les Chinois sont comme ça. Non, j'ai apprécié beaucoup...
C'est un peuple accueillant?
Oui, ça indéniablement, un peuple accueillant, ça certainement. Donc, pour dire les choses positives, un peuple accueillant, un peuple qui est spontanément joyeux, hein, souriant, sauf dans les difficultés, bien sûr. Et tous les gens qui viennent ici et qui ont vécu dans d'autres pays d'Afrique disent indéniablement, on est reçu avec gentillesse ici. Bon, on va essayer de vous flouer un petit peu. Un peu de tripotage au risque de voler votre téléphone, ça sont des choses qui arrivent. Mais c'est un peuple accueillant, ça il n'y a pas de doute. Et je me suis toujours sentie à l'aise et acceptée, parfois tolérée. Quand je disais trop de choses, parfois tolérée. Mais dans l'ensemble, ça a certainement été une expérience enrichissante. J'espère qu'elle a été enrichissante pour les Congolais. Et ça, il faut le leur demander.
Alors, docteur, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas appréciées pendant cette expérience? Il y a des choses négatives
oui, bien sûr.
Que vous n'avez pas aimées, que vous vouliez changer, par exemple, mais sans force, vous avez laissé passer.
Une chose très simple, mais ça, vous ne l'aimez pas non plus, la circulation à Kinshasa. C'est horrible, la circulation à Kinshasa. Ça, je ne m'y habitue pas.
Depuis tout ce temps que
non, maintenant, non, autrefois, c'était agréable.
Autrefois, il n'y avait pas une grande circulation, il n'y avait pas beaucoup de monde à Kinshasa.
Je conduisais moi-même, j'étais à l'aise, mais maintenant, je n'aime pas beaucoup la circulation à Kinshasa. J'ai un bon chauffeur, et même avec ça, je tremble.
Vous avez peur de quoi?
Absolument. Mais quand je vois deux taxibus qui foncent sur ma petite voiture, je ne suis pas à l'aise. Non, disons une chose, pour être plus sérieux. Je pense que le grand drame du Congo, c'est la corruption. Et ça, je suis beaucoup plus sérieuse. Et ça, c'est un drame terrible. Et c'est très difficile de voir que, trop souvent, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un et que la corruption se trouve partout. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'excuses, mais on ne peut pas construire un pays avec le système de la corruption. Et ça, c'est grave. C'est grave pour le programme, c'est grave pour les hôpitaux. Dans les hôpitaux, la corruption est généralisée. Je ne porte pas de jugement. Je suis obligée de constater ce fait. Je ne veux pas dire que un tel est responsable. C'est pas ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très grave et qui handicape l'avenir de ce pays. Et l'avenir de la plupart des programmes.
Et docteur, quand vous voyez aujourd'hui le programme national de lutte et la prise en charge des personnes qui souffrent du diabète, qu'est-ce que ça vous fait au fond de vous-même? Un programme qui a commencé avec un petit nombre de médecins à Mamaemo en 1974, aujourd'hui c'est quand même un grand programme.
Mais écoutez, je suis fière. Et je suis fière de l'avoir construit, pas toute seule, mais avec une grande équipe, n'est-ce pas? Il est clair que toute seule, je ne pouvais pas le faire. J'ai commencé, ça c'est la vérité, mais j'ai trouvé beaucoup de gens autour de moi, j'en suis fière. Et je suis fière de ceux qui m'entourent, je ne peux pas les nommer tous, mais il y a de très nombreux médecins, de très nombreux infirmiers qui travaillent de façon remarquable. Même certains malades qui se dévouent, je vais vous donner un petit exemple tout simple, une jeune femme diabétique elle-même, depuis 27 ans, qui vient toutes les semaines, passer sa journée à enseigner aux malades comment se soigner. Eh bien, ça sont des choses extraordinaires. Donc, j'en suis fière.
Et les Congolais devraient profiter de cette expérience que vous avez apportée quand même, hein, aux Zaïre, en RDC aujourd'hui.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont profité, je l'espère.
Est-ce que vous êtes contente de voir vos élèves, comment ils se défendent aujourd'hui?
Absolument, absolument. Il y en a vraiment qui travaillent bien. Il y a d'autres, parce que dans l'ensemble, le niveau des soins médicaux ici à Kinshasa n'est pas ce qu'il devrait être. Ça pourrait être beaucoup mieux. Il y a beaucoup de laisser-aller. Beaucoup. Mais on doit essayer de travailler avec ce qu'on a et on fait de son mieux. Et il y en a qui le font bien.
Mm-hmm. Aujourd'hui, docteur Desclercq, que vous n'êtes plus à je dirais comme auparavant dans la prise en charge ou dans ce programme de lutte contre le diabète, mais vous aidez ces jeunes médecins ou ceux qui veulent se former dans ce domaine à pouvoir s'améliorer par vos ouvrages que vous publiez.
J'ai encore pas mal d'activités dans le domaine de l'éducation, de la formation et puis aussi donc de conseiller. Par exemple, j'ai régulièrement des visites de gens qui viennent me dire voilà comment est-ce que je dois organiser mon centre, etc. Je suis un petit peu un lien entre les différentes activités. J'essaie de relier les gens les uns avec les autres, parfois de conseiller, et ça prend quand même pas mal de temps aussi. Je prépare ce qu'on appelle en technique des outils pédagogiques, donc des livres, des CD avec des cours, etc. Et alors les cours à l'intérieur du pays, ce sont des collègues médecins qui vont les donner avec le matériel que j'ai préparé. C'est ça mon rôle.
Docteur Desclercq, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Un mot, un dernier mot adressé à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment.
Mais je voudrais adresser d'abord un message d'espoir à toutes les personnes qui sont atteintes de diabète. Elles sont très nombreuses. Dites-vous bien que pour la plupart, vous pouvez vous soigner et éviter beaucoup de complications si vous apprenez à vous soigner et à vous surveiller. L'essentiel, c'est de se surveiller pour éviter les complications. Je voudrais aussi adresser mes souvenirs à tous les médecins que j'ai rencontrés et qui actuellement soignent le diabète, et surtout à tous les infirmiers qui sont les grands artisans de ce programme. Continuez avec courage, la victoire est au bout.
Merci beaucoup, docteur Marguerite Desclercq,
oui.
Très connue
voilà.
Sous le nom de docteur Desclercq. C'était
voilà.
Un plaisir, au revoir. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais docteur Marguerite Desclercq. Elle est religieuse, elle a avec quelques médecins congolais mis sur pied le programme de lutte contre le diabète. Et c'est de ce programme qu'est né le programme national de lutte contre le diabète en RDC. Merci à Patrick Kiasonga qui était à la mise en onde de micro qui l'écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Thank you.